Monsieur Nicolas Giannakopoulos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Observatoire contre le crime organisé. Vous êtes à Genève et nous allons parler aujourd'hui évidemment de votre sujet favori qui est le crime organisé en Suisse et dans le monde. Qu'en est-il de la situation aujourd'hui?
Oula, vaste sujet. Globalement, je peux dire sans m'avancer trop que la situation se péjore du fait de la crise financière, du fait de la globalisation, en termes de présence de groupes criminels un peu partout dans le monde. Par contre, elle se diversifie aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'elle est, comment dire, elle touche de plus en plus de marchés. Et puis elle s'éclate dans le sens que il y a de plus en plus d'acteurs qui travaillent sur ce marché. Et ça rend évidemment très difficile la recherche et le law enforcement, on va dire, un peu partout dans le monde.
C'est un marché florissant, ça on le comprend volontiers, mais on n'a jamais connu autant de lois, autant d'organismes nationaux et supranationaux propres justement à placer des limitations à peu près partout. Quel est le problème? Comment se fait-il que c'est justement dans cette ambiance que le crime organisé se développe?
Bah, le crime organisé va se développer sur des marchés légaux et illégaux, mais la force évidemment c'est de mélanger les deux, en dépit d'un peu des réglementations. Maintenant, la question sur les réglementations est très intéressante, puisque effectivement, depuis plus de 30 ans, on appelle à une certaine harmonisation des réglementations au niveau international, ce qui est en train de se faire, hein, gentiment. Le problème, c'est qu'on est dans une phase de construction d'un espace réglementaire international et malheureusement, ben, ça prend du temps, puis c'est pas très effectif actuellement. C'est pas très effectif parce que, comme vous le savez très bien, il suffit pas de faire la loi pour que la loi soit appliquée. Et c'est effectivement ce qui se passe. Bon, au niveau du crime organisé, il y a eu c'est encore assez récent, ça date des années 2000, hein. La Convention des Nations Unies de Palerme, qui propose en tout cas une définition commune, internationale de ce que c'est le crime organisé, qui a été ensuite reprise par le Conseil de l'Europe, qui a été reprise par la majorité des pays. Pas tous les pays du monde sont signataires de cette convention, faut pas non plus l'oublier. Mais ensuite, bah, c'est une convention des Nations Unies. Donc après, c'est à chaque État de mettre en place une législation spécifique chez lui, et puis ensuite de mettre en place tout ce qui est law enforcement. Et c'est là-dessus que ça prend énormément de temps, parce que là, on est dans le réel, on est dans le concret, on n'est pas juste dans le débat d'idées, hein. Et ça, c'est compliqué, quoi.
Alors, est-ce que c'est la coopération internationale qui est la solution, ou carrément l'uniformisation des lois, des services d'intervention?
Alors, ça, il y a beaucoup de choses différentes là-dessus. L'uniformisation de la conception du problème, ça, c'est indispensable. Parce que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, hein, quand on parle de crime organisé aux États-Unis, et quand on parle de crime organisé, en Allemagne, par exemple, ben, c'est deux choses différentes. Ça recouvre deux réalités différentes qui sont traitées aussi de différentes manières. Donc l'uniformisation ou l'harmonisation, et préfère appeler ça comme ça, de la conception même du phénomène, ça c'est absolument indispensable pour que tout le monde, puisque c'est un phénomène global, puisque tout le monde puisse parler de la même chose avec les mêmes termes. Ça c'est très important. Ensuite, tout ce qui est l'harmonisation en fait des législations. Législation, ça ne fait pas seulement référence à un phénomène, ça dit quand il y a un phénomène, et puis ça définit aussi le phénomène par rapport à des peines qui peuvent être encourues et par rapport à des moyens qui peuvent être mis en place. Et là, c'est très compliqué parce que chaque État, où il y a des groupes d'États comme ça qui ont des régimes légaux très différents, et puis qui ont des systèmes d'organisation aussi très différents. Et vous pouvez pas demander, je dirais, le même effort technique ou on va dire administratif, policier, judiciaire à la Suisse et au Burkina Faso. Les réalités sont différentes et les moyens sont aussi différents. Hein. Donc il y a aussi tout un accompagnement technique, au niveau law enforcement, justice, juridique, construction de l'État, qui est fait, qui est proposé à différents États. Ah, ça marche pas toujours, hein, c'est très long, il y a beaucoup de résistance, évidemment. En face, on a des organisations, des structures qui ont infiltré le pouvoir, qui ont infiltré l'administration, qui ont infiltré l'économie, les partis politiques, etc., qui résistent à ça et qui le tournent dans le... C'est une bagarre qui se gagne pas en deux coups de cuillère à peau ni en 10 ans. C'est une bagarre qui peut éventuellement se gagner en 10, 20 ou 30 ans.
Et alors justement, dans cette bagarre, quel est le rôle de l'Observatoire du crime organisé?
Alors, dans cette bagarre, je dirais, le rôle de l'Observatoire du crime organisé, c'est un peu de passer des informations, donc de créer de l'information, de la diffuser sur ce phénomène, de proposer des modifications, de mettre le doigt peut-être là où il y a des choses qui vont pas, puis il faudrait peut-être les modifier. Et ça c'est un peu la force de l'Observatoire et son internationalité, c'est en allant chercher des expériences ailleurs. Prenez par exemple tout ce qui est appel d'offres public et gestion publique, pas au niveau à des niveaux nationaux, mais à des niveaux régionaux, communaux. Il y a très peu de choses qui sont faites en Europe, pour parler que de l'Europe, hein. Mais il y a une longue expérience en Italie, par exemple, avec une association qui s'appelle Avviso Pubblico, qui propose et qui fait des recherches, des séminaires, qui propose des best practices, des guides, etc., pour les maires, les conseillers communaux, pour justement éviter que certaines communes soient infiltrées par des organisations criminelles. Cette expérience-là, toute proportion gardée, on peut s'en servir de base pour dans d'autres réalités. Après, il faut l'adapter, évidemment, mais au moins, on part pas de zéro. Donc, c'est aussi transmettre ce savoir, faire passer ce savoir au-delà des frontières et faire un travail aussi d'intégrateur de connaissances.
Alors, on se doute que vous avez des informations de première main. Est-ce que vous pouvez... ils ont laissé entrevoir certaines de leurs origines. Et puis aussi, est-ce que vous êtes bien reçu par les États différents, européens ou autres, en termes de collaboration par rapport à cet échange d'informations?
Alors, nous, on travaille beaucoup avec des associations, des responsables politiques, des responsables administratifs, assez peu. On travaille aussi avec des gouvernements, mais il faut que ça soit extrêmement cadré, on n'a pas un rôle véritablement actif là-dedans. Généralement, ça se passe assez bien, puisque c'est eux qui viennent. Donc, après, il faut faire évidemment toujours attention où on met les pieds. Hein. La manipulation, les tentatives de déstabilisation, en fait après vous êtes en première ligne, donc il faut faire vraiment très attention par rapport à votre implication et aux conséquences de cette implication.
Justement, alors quel est le financement de l'Observatoire et puis finalement comment vous est venue la vocation?
Oula. Alors le financement de l'Observatoire a très peu de besoins financiers, c'est-à-dire que en termes de besoins annuels, c'est un budget d'à peu près 350 francs suisses. Pourquoi? C'est juste pour le site internet et puis pour différentes petites dépenses quand il y a besoin. Après, quand on fait une manifestation, que ce soit une recherche, une conférence, un séminaire, des choses comme ça, il y a un budget particulier qui est défini. On va pas le faire tout seul, on va le faire avec des partenaires. Et là, c'est traité comme une opération spécifique. Donc, sur le budget, il y a des, je crois, voilà, c'est un peu ça, quoi. Un peu, en gros, c'est moi et quelques autres qui finançons ça depuis des années. C'est pas énorme, et voilà. Maintenant, au niveau de la vocation de l'observatoire, en fait, on avait vu à l'époque, quand on travaillait à Berne, que, comment dire, plusieurs, ouais, il y avait plusieurs enquêtes au niveau suisse, qui étaient réalisées sur des groupes criminels, qui agissaient dans différents cantons, et puis les magistrats de ces différents cantons, ben, ne se parlaient pas, tout simplement, et puis refaisaient le même travail, 3, 4 fois. On s'est dit, c'est un peu bête, il faudrait que ces gens se parlent. Et ben, c'est un peu comme ça qu'est né l'observatoire, on va dire, parce que comme ça, on a pu effectivement monter un réseau de magistrats de confiance qui pouvaient se parler, parce qu'avant, je parle de 1904, 1995, 1996, il y avait des commissions rogatoires intercantonales. Donc je dis avec toutes les possibilités de recours, etc. Donc je ne vous dis pas la cacophonie que ça générait, les délais, etc. Surtout quand on va faire des enquêtes complexes. Donc, on s'est dit, bah, mettons les magistrats en face de l'autre, et puis qui demandent quoi, à leurs collègues, dis donc, on a eu des réseaux nigérians, des trucs comme ça, t'es en train de travailler dessus, oui, ah bon, tiens, c'est intéressant, voilà ce que j'ai, voilà ce que t'as. Et puis voilà, ça allait un peu plus vite. Puis comme ça, ils n'étaient pas obligés de faire refaire et re-refaire toutes les démarches. Et puis rapidement, bah, ça a pris une ampleur internationale, cette affaire, parce que les mêmes problèmes qu'on avait en Suisse, hein, ben, ils se retrouvaient à plus large échelle au niveau international. Donc finalement, ben, on s'est trouvé comme réseau d'échanges et facilitateurs, on va dire, au niveau international, entre des polices ou des policiers qui étaient sur des affaires, des magistrats, etc. Puis quand vous travaillez sur ces domaines aussi, c'est très important, la confiance est très importante. Donc quand vous avez, je sais pas, au plus fort de Manipulite, par exemple, ou bien quand vous avez des enquêtes sur le Brésil, l'Amérique latine, etc., c'est très difficile comme magistrat ou comme policier européen de savoir à qui vous avez affaire de l'autre côté. Même chose en reverse. Donc il fallait en fait avoir des informations qui soient complètement extrajudiciaire, parce que l'administration, elle est universelle par essence. Donc, je ne peux pas dire, ouais, celui-là, tu peux parler à celui-là, mais pas trop à celui-là, parce que celui-là, il y a des trucs qui se disent sur lui, etc. Enfin, bref, ça permettait, en fait, d'avoir un réseau international de confiance où des magistrats, des policiers pouvaient, en fait, contacter des gens dans différents pays pour savoir un petit peu où ils mettaient les pieds dans une enquête.
Oui, on sent qu'il y a un besoin de se protéger contre les risques de corruption au sein même des administrations. Est-ce que selon vous, la Suisse serait touchée par ce phénomène?
Bien sûr que la Suisse est touchée par ce phénomène. Évidemment, ça fait des années. Maintenant, ça fait...
Mais j'entends même de corruption de
Ouais,
fonctionnaires qui travailleraient
clairement.
en sous-main pour le crime
Bien
organisé.
sûr. Bien sûr.
Parce que bon, on connaît effectivement les réseaux de dealers de drogue d'Afrique de l'Ouest, on connaît aussi le gang des Géorgiens qui viennent vider les villas, mais est-ce que la grande criminalité, vraiment les criminels de haut vol, se pose aussi chez nous?
Ben bien sûr qu'ils se posent chez nous. Et vous avez utilisé le terme juste, ils se posent. Ça veut dire qu'ils achètent des villas, ils se créent une petite vie ici. C'est un petit peu la retraite, quoi, le no man's land, la DMZ européenne. Maintenant, c'est un peu en train de changer, hein, aussi, mais au niveau de la législation, de l'applicabilité de la législation, c'est là aussi où bât blesse. C'est qu'on a eu tellement de ratés, on va dire, entre guillemets, ces dernières années, que ça devient de plus en plus sûr. C'est pas, je veux dire, ça veut pas dire qu'on les embête pas, mais ça veut dire qu'on va pas les arrêter, on va pas les mettre en prison, etc. D'autant plus que la Suisse, au niveau de l'application des peines, elle a pas du tout les infrastructures pour gérer ce genre de personnes. Donc, ils ont mis en place des accords avec des pays qui sont plus équipés. On va dire en termes carcéral, par exemple, en termes de protection de témoins, en termes de... C'est vraiment une guerre, donc c'est très difficile, il faut faire attention à toutes les étapes. Et en Suisse, ben oui, le problème, comme disait un ami journaliste, c'est qu'en Suisse, on n'a quasiment aucune condamnation pour crime organisé au niveau judiciaire. Maintenant, si on regarde en Italie, en France, en Espagne, aux États-Unis, Canada, France, Allemagne même, Russie, Kazakhstan, Inde, Nigeria, là, tout d'un coup, on se retrouve au centre de tout un réseau, un maillage assez dense, on va dire, de criminalité de haut vol, qu'on n'a pas détecté. Ça vient par les commissions rogatoires.
Alors comment ça se fait qu'en Suisse, on a tellement de lois et de si bonnes, on n'ait pas les moyens d'enfermer ces gens-là?
Ah, mais c'est deux choses différentes. La loi, elle a sa logique. Hein. Le système judiciaire a sa logique. C'est une logique qui est, à la base, pas faite ni pour des groupes, c'est faite pour des individus. On a d'énormes peines à appliquer le droit existant, par exemple, sur la responsabilité pénale des personnes morales, des sociétés, des entreprises. C'est pas naturel pour un système juridique. Et puis ensuite, c'est pas un système judiciaire. Le système judiciaire n'est pas fait pour taper sur les puissants. C'est fait pour taper sur les voleurs de poules. Faut avoir une perspective historique là-dedans. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, que c'est dégueulasse ou blablabla. C'est comme ça. Et puis c'est normal que ça vienne comme ça parce que la police a été créée par Napoléon sur la base de systèmes militaires. Pour taper contre la délinquance de rue. Et le système judiciaire s'est adapté à ça petit à petit, mais vous avez des résistances qui sont extrêmement fortes. Là, je parle pas de la corruption ou de la cooptation ou de l'infiltration diverses et variées. Je parle tout simplement d'un phénomène culturel. C'est-à-dire des codes, des langages, des habitudes qui sont prises parce que le droit se fonde beaucoup sur les habitudes qu'on appelle la jurisprudence.
Voilà, mais est-ce que la Suisse, après toutes ces aventures bancaires, ces histoires sur le blanchiment et la correction de comportement qui a quand même suivi malgré tout, est-ce que la Suisse est encore attractive pour ce type de clientèle?
Ah oui, bon, elle est toujours active, hein, ne cachons pas, mais c'est plus difficile maintenant, c'est clair. Au niveau blanchiment, oui. Mais il y a deux choses dans le blanchiment, il faut bien comprendre. Le blanchiment en termes juridiques, c'est c'est principalement c'est un délit annexe, on va dire. Parce que vous avez un délit de prima facie, ce qui doit être la commission d'un délit. Et s'il n'y a pas de commission de délit ou si vous ne pouvez pas prouver la commission d'un délit, eh ben vous ne pouvez pas inculper quelqu'un pour blanchiment d'argent. C'est la première chose. Puis deuxièmement, il y a beaucoup d'interprétations là-dedans. Puis troisièmement, il y a toute la mécanique qui s'est mise en place en Suisse et puis qui se met en place dans le monde entier pour détecter ça. Et ça, c'est, je veux dire, quand vous mettez ensemble les trois niveaux, ben vous arrivez à une espèce de gabegie où vous avez un institut financier qui va dénoncer tous les virements qui sont faits en Afrique, par exemple, que ça soit 50 francs, 200 francs, 3000 francs ou 100 000 francs. Et puis, vous en avez d'autres qui vont rien dénoncer du tout. Et puis, vous en avez certains qui vont mettre des limites, je crois, 50 000 $, par exemple. Vous en avez d'autres qui vont aller regarder tout l'arrière-plan économique. Vous avez d'autres qui disent « Ah non, mais moi je connais bien ce client, etc. Ça fait 20 ans que je travaille avec lui, on a vu ce que ça donnait avec le trafic de hashish à Genève, etc. » Je veux dire, il y a énormément de pratiques différentes dans l'application des lois et des règlements. Et ça, je parle de la Suisse, parce que c'est exactement la même chose dans tous les autres pays. Donc c'est de dire « Oui, on a des bonnes lois. » Ouais, il y a 2-3 trous à combler en Suisse, oui. Mais dans l'ensemble, on a des bonnes lois, on en a peut-être même un peu trop. Parce que aujourd'hui, avec la problématique fiscale, on a un peu confondu argent noir et argent gris. Ce qui, au niveau société et au niveau politique, ne pose des questions totalement différentes. Et qui pose aussi la question de la légitimité des organes de l'État. Et ça, c'est très dangereux, parce que quand on commence à discuter de la légitimité d'un organe judiciaire, c'est comme si vous commencez à discuter la légitimité d'un arbitre dans une partie de hockey. ou des arbitres. Vous dites, ouais, mais lui, il n'a pas le droit, ou il n'a pas le droit de faire ça. Et puis, vous la contestez, vous pouvez la remplacer. Hein. Et ça, c'est très, très dangereux pour l'état de droit, c'est très dangereux pour la démocratie. C'est ça, le danger. La fiscalité, à la limite, personnellement, et peut-être je vais choquer quelques-uns, mais je m'en fous complètement. C'est un problème politique. Par contre, le problème de l'argent du crime et de la criminalité organisée en général, je parle pas seulement du blanchiment d'argent, mais aussi de leurs activités productives, légales et illégales, ben ça pose d'énormes problèmes de légitimité à l'État.
Alors, vous parlez des politiques, vous avez mentionné le hachiche à Genève. Est-ce que l'attitude de nos politiques actuellement est toujours, disons, franche du collier? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme de, je vais être un petit peu loin, mais de complicité par omission d'action dans un certain type de domaine? Est-ce qu'on protège justement un certain type de puissant, une clientèle qui reste intéressante pour certains groupes d'intérêt en Suisse?
Je ne pense pas que c'est une question de clientèle ou de clientélisme. Peut-être, oui, certainement, je veux dire, mais je ne pense pas que ça soit une généralité. Moi, je me pencherais plutôt sur la différence entre l'homme, l'individu, parce qu'il y a la femme aussi, l'individu et le pouvoir qui est conféré aux individus dans des cadres privés ou publics. Je veux dire, pour illustrer ça, si vous êtes un individu, vous êtes normalement constitué, vous avez une tête, deux bras, deux jambes. Et puis vous mangez tous les jours, vous allez au besoin tous les jours, vous avez une famille, vous avez vos propres aspirations, etc. Et puis d'un autre côté, vous avez des fonctions qui vous sont conférées par votre poste, votre carrière, vos connaissances, ou d'autres choses, ça peut être plein de trucs. Et puis ces fonctions vous donnent un certain pouvoir sur les gens. Et puis c'est quand on augmente le différentiel entre le pouvoir de la fonction et puis les besoins en fait basiques d'un être humain, quoi. Là, on a énormément de problèmes parce que tout d'un coup, vous êtes plus dans les mêmes mondes, vous êtes plus dans les mêmes univers et vous arrivez plus à concilier les deux univers. Donc, quand on dit complicité, etc., oui, il y a une forme de complicité par omission, il y a une forme de résilience, de nonchalance aussi parfois sur ces phénomènes, que ça soit parce qu'on a peur. Et ça, c'est tout à fait compréhensible, là aussi. Que ça soit parce que on a des amis, des connaissances qui, tout d'un coup, peuvent être directement impactés. On a, tout d'un coup, des besoins d'argent. Tout simplement, c'est plus commun, c'est plus bête. Hein. On a des vices cachés, on a plein de trucs. C'est vraiment, quand on regarde ce différentiel, c'est différentiel entre l'être humain, la personne et la fonction, et bien là, tout d'un coup, on se rend rapidement compte de la dynamique en fait, qui pousse les gens soit à rentrer dans des structures légales ou illégales, ou au moins à en faire partie dans la périphérie, soit à les aider par action, par omission. Et quand vous avez des magistrats, des CEO, des personnes publiques ou dans des structures publiques ou privées, hein, ça peut être dans des multinationales, comme ça peut être dans des organismes d'État, qui sont dans ces conflits en fait de loyauté, et ben là vous avez les portes d'entrée pour ça. Alors, c'est pas forcément de la criminalité organisée, mais même si c'est de la criminalité organisée ou même si c'est pas de la criminalité organisée, Ça crée des terreaux favorables à l'introduction d'acteurs criminels très puissants.
Alors revenons peut-être un petit peu à la Suisse. Est-ce que vous auriez comme ça une solution à nous donner pour avancer un petit peu sur le terrain concret, comment améliorer les choses en Suisse? Si demain vous étiez au pouvoir, aux commandes, que feriez-vous dans l'immédiat pour pouvoir améliorer rapidement, même dans un seul domaine, la question de la criminalité organisée?
Ouais, moi, j'en discute beaucoup. Hein, mais il y a un système qui est une perspective de ce système qui est à changer. En Suisse, on essaie beaucoup de prévoir, de prémunir les systèmes contre ce genre d'infiltration et de risque. Donc, on met en place des lois qui sont déclinées en règlements, en applications, etc. Hyper alambiquées. Personne les comprend. Donc, non seulement tout le monde les interprète à sa manière, Mais en plus, c'est plus ou moins appliqué suivant la volonté des gens qui sont en place. Derrière, on n'a pas vraiment de sanctions. Donc, moi, je suis... Et puis, d'un autre côté, je ne suis pas pour détruire un appareil productif. Quand une société, par exemple, fait des comédies fraudes massives ou participe à de la corruption internationale, ou etc., je suis pas forcément pour détruire l'outil de production parce que il y en a certains dans une entreprise qui ont fait des conneries. Il faut punir ceux qui ont fait des conneries, mais il faut pas détruire non plus l'outil de production parce que c'est des emplois, c'est de la richesse, etc. Donc ça doit être gardé, ça doit être conservé. Maintenant, moi, je serais plutôt de l'avis de faire des lois beaucoup plus simples qui soient et qui puissent être comprises par tous, mais surtout de les appliquer. De les appliquer, ça veut dire être beaucoup plus sévère en termes de police et de justice. Et avec des peines qui soient aussi adaptées à ces délits-là. Pas du 2 ans avec sursis ou des trucs comme ça, pas 4 millions d'amendes. Non, 400 millions d'amendes, 4 milliards d'amendes. Avec des peines qui vont jusqu'à la perpétuité, 25, 30 ans de peine. Là, la perspective, elle va changer. Parce que on va mettre en place des systèmes pour se protéger soi-même. Parce qu'on sait que si il y a un problème et qu'on est dedans, eh bien, la vie, elle est fichue, elle est terminée. Et ça, sur cette perspective-là, ça change véritablement l'approche de chacun d'entre nous vis-à-vis de ces phénomènes. De faire des lois plus simples. La loi, c'est un produit social. Ça doit pouvoir être compris et ça doit pouvoir être appliqué. Ça ne sert à rien de faire des lois à tire-larigole si on ne les applique pas derrière. Donc, moi, j'avais milité en montant dans certains années pour dire il faudrait chaque 5 ans ou chaque 10, 15 ans des revues législatives. Donc, vous avez des commissions comme ça, parlementaires, qui considèrent chaque loi, 10 ou 15 ans après leur entrée en vigueur, puis ils regardent si la loi atteint ses objectifs ou pas. Parce que quand on crée une loi, il y a des objectifs, il y a des messages, on fait une loi pour quelque chose. Si la loi atteint ses objectifs, on la garde. Si la loi n'a pas atteint ses objectifs, soit on l'enlève, soit on la modifie. Et comme ça, on éviterait ce millefeuille insupportable qui rend la loi, et le droit et l'application du droit en tant que tel, un espèce de produit abscon qui sert plus à rien parce qu'il est plus appliqué, parfois parce qu'il est plus applicable, ou parce qu'il est applicable que dans des situations bien particulières avec des moyens qui sont parfois, et de plus en plus malheureusement, hors d'atteinte de la majorité des gens et qui se délégitimisent. Et quand une loi, quand le droit, et ça veut dire toute la machine démocratique qui génère le droit se délégitimise, eh ben vous avez la création de légitimité concurrente dans des territoires qui sont malheureusement de plus en plus nombreux en Europe. Et ça c'est la fin de notre système à nous. Donc il faut voir aussi si on veut garder cette tierce partie ou si on veut avoir des comités ou des commissaires du peuple ou des petits gangs de quartier qui font la loi et qui font véritablement la loi.
Oui, mais alors que répondez-vous à ceux qui vous diront que finalement c'est dans les États qui ont les sanctions les plus lourdes que la criminalité est la plus forte, la plus vivace? On a encore dans nos universités en Suisse des professeurs de droit, hein, le professeur Kuhn pour pas le citer, qui nous explique que si les gens sont violents, c'est en réponse à la violence que l'État leur fait en les mettant en prison. Donc, au bout d'un moment, on tourne un petit peu en rond, on a l'impression que philosophiquement, la Suisse n'est pas prête.
Non. Alors, excusez-moi, ça c'est une connerie, parce que en termes de gang, je vois très bien ce qu'il dit, mais je pense que l'analyse elle est mauvaise. Les bases sont pas forcément justes quand on dit ça. Quand vous avez des individus qui commettent des tueries aux États-Unis comme récemment, il y a plusieurs facteurs pour ça, et notamment des facteurs sociaux, et puis un accès aux armes facilité. C'est comme les gangs dans différents quartiers, dans différentes villes, y compris en France, y compris dans les grandes villes d'Europe. Hein. Vous avez, c'est une situation de détresse sociale qui pousse à ça. parce que c'est une espèce d'ascenseur social alternatif qui peut être pris. Mais un grand classique, une grande universalité dans tout ce qui est, dans tous les mouvements de violence sociale, les révolutions, etc., il faut quoi? Il faut une population qui est oisive, qui n'en a rien à fiche, qui est en même temps pressée, pressurisée, voire désespérée, et puis il faut des armes. Bah, vous avez un peu tout ça aux États-Unis, hein. C'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de délinquance, il y a beaucoup de... Alors là, on parle aussi de différentes choses. Je veux dire, quand on parle de micro-délinquance, c'est une chose. Quand on parle de criminalité organisée, c'est aussi autre chose. Les deux choses se traitent différemment.
Et justement, vous avez parlé des armes. Est-ce qu'en Suisse, vous pensez qu'il faut qu'on en restreigne strictement l'accès?
En Suisse, c'est déjà pas mal restreint. Moi, je suis pas pour l'armement que n'importe qui puisse... Même des personnes qui sont... Il y a des petits trous à combler, etc. Mais ils vont garder ce qui est en Suisse, ce qui se passe en Suisse, avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est sans commune mesure. Moi, j'étais aux États-Unis, vous pouvez acheter une mitrailleuse à trépied qui tire des calibres, c'est quasiment du 2 cm, quoi. Je disais, mais vous utilisez ça pour quoi? Je dis, ouais, c'est pour la chasse. Vous chassez quoi avec ça? Un dinosaure ou bien? C'est un truc, une arme de guerre, quoi. Et donc c'est vraiment il y a vraiment deux mondes, hein. Je pense qu'en Suisse la loi sur les armes elle est pas mal. Après c'est des questions aussi de d'air du temps, c'est des questions de stratégie politique des uns et des autres, mais on n'a pas de quoi se plaindre. Il y avait la grosse problématique, c'est plutôt les armes militaires, mais là ça concerne l'armée. Par rapport aux lois, à faire des lois, etc., il y a un déficit de connaissances gigantesque sur le domaine. En Suisse, comme dans d'autres pays, à part, je dirais, en Italie. Si on arrive à avoir le niveau de connaissances sur le phénomène que les Italiens ont, là, on pourra peut-être créer des bonnes lois et mettre en place des bonnes réponses. Mais pour l'instant, la première chose à faire, c'est d'acquérir de la connaissance sur ce phénomène. Parce que ça ne sert à rien d'y aller comme des aveugles. C'est ce qu'on fait actuellement.
Enfin, Nicolas Giannakopoulos, alors des lois plus simples, mais appliquées de façon plus stricte. On espère que les élites politiques vous entendront sur ce point-là, et nous vous remercions. Oui, on peut déplacer, hein, le remerciement.